Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous célébrerons dimanche la Fête Dieu, occasion pour de nombreuses paroisses de notre région d'organiser des processions du Saint-Sacrement. D'où vient cette tradition? Que vient-elle signifier? Éclairage aujourd'hui avec les invités de Radio Présence. La procession de la Fête Dieu est de plus en plus reprise par des paroisses de notre diocèse, de nos diocèses. Elle renoue aussi avec une longue tradition. Pourquoi un tel engouement? Quels fruits cette tradition porte-t-elle? Pour nous guider dans notre réflexion, je reçois l'abbé François de Larbouste, curé de l'ensemble paroissial du Grand Selve. Bonjour Père.
Bonjour Madame.
À vos côtés, Anne-Françoise Marie, paroissiane de ce même ensemble, mariée et mère de famille. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour Isabelle.
Les auditeurs de Radio Présence vous connaissent bien puisque vous animez chaque semaine deux chroniques, l'une sur l'écologie et l'autre sur le numérique.
Exactement.
Commençons par un peu d'histoire. Père François de Larbouste, quand la procession de la Fête Dieu a-t-elle été instituée?
La procession de la Fête Dieu, elle a été instituée au XIIIe siècle par le pape Urbain IV, suite à d'abord des révélations à Sainte Julienne du Mont Cornillon en Belgique, qui avait vu une sorte de lune barrée d'un trait noir, une lune qui n'était pas complète. Et elle en a compris qu'il manquait quelque chose à l'église pour que la lune soit reflète parfaitement la lumière du soleil. Et il manquait une fête du Saint-Sacrement. Hein, on voit la lune, l'hostie, etc., évidemment. Cette idée que nous avons à être illuminés par la présence de Dieu et que l'Église avait besoin d'une fête particulière. Ça venait sans doute après aussi une controverse eucharistique avec Béranger de Tours, hein, qui avait mis en doute la présence réelle. Or, cette présence réelle, c'est le trésor de l'Église. Bien entendu, la fête de l'Eucharistie, c'est tous les dimanches ou c'est à chaque messe.
Et c'est aussi célébrer le Jeudi Saint.
Et c'est évidemment célébrer le Jeudi Saint. Mais d'après cette révélation faite à Sainte-Julienne, il fallait une fête particulière. Et puis, ça a été proposé d'abord à Liège, avec beaucoup de réticence, parce qu'un jour férié de plus, c'était un jour où on travaillait en moins.
Hein, parce que ça n'était pas sur le dimanche. Pas forcément un dimanche.
Alors, ce n'est pas forcément un dimanche. Ouais. Non. Et dans beaucoup de pays, là, c'est célébré le jeudi.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de réticences, effectivement, sans doute pour des raisons d'abord économiques. Hein, encore une fois, un jour férié de plus. Et puis, on pouvait peut-être voir quelques réticences en se disant, d'un point de vue théologique ou liturgique, c'est tous les dimanches qu'on célèbre ou à chaque messe qu'on célèbre la Sainte Eucharistie. Le pape a quand même se laissé convaincre, notamment par les révélations de Sainte-Julienne et aussi par un miracle qui a eu lieu à Bolsena, en Italie, où un prêtre qui doutait de la Sainte Eucharistie, de la présence réelle, c'était en 1263, a vu des gouttes de sang tomber de l'hostie sur le corporal. Et ce miracle eucharistique a aussi touché les cœurs, a orienté vers un réalisme eucharistique. C'est réellement le corps du Christ, c'est pas un symbole. Hein, il est présent dans la reste, dans la chose, c'est lui. Et le pape donc a institué cette fête de l'Eucharistie et cette fête Dieu et l'a instituée à l'Église universelle.
Donc ça, c'était le pape Urbain IV. C'est dans les années 1260, 61, 64, au moment justement de ce miracle eucharistique. Et alors, il a eu ces mots au moment de l'institution de cette fête du corps du Christ. Il a dit « Qu'en ce jour, des troupes de fidèles s'assemblent en grand nombre et avec une ferveur extraordinaire et que le clergé et le peuple témoignent de leur joie par des cantiques de louanges, etc. etc. » Donc on sent que c'est vraiment une fête qui avait de l'importance et qui devait être très joyeuse. Anne-Françoise, vous voulez compléter un petit peu ces premiers propos?
Moi, je trouve ça intéressant de relier, en fait, la fête Dieu qu'on voit un petit peu renaître, entre guillemets, à notre époque, avec les miracles eucharistiques. Parce que ça prouve, en fait, que on a besoin régulièrement nous, en tant qu'hommes, d'avoir des signes sensibles, des signes visibles. Et la procession de la fée Dieu, elle est aussi là pour ça, pour montrer le corps de Jésus et le montrer au plus grand nombre. Et donc, le fait de sortir un peu de nos églises lors des processions, eh ben, ça veut montrer aussi ce signe qui est très fort, qui est largement incompris maintenant, mais qui est très fort pour les croyants, mais aussi pour tous.
Est-ce que le pape Urbain IV, qui a donc institué cette fête Dieu, est-ce que c'est lui qui a proposé d'instaurer des processions et de faire finalement des cortèges solennels pour accompagner le corps du Christ?
Alors, je ne saurais vous le dire exactement, vous le savez peut-être mieux que moi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une évolution dans la volonté du peuple chrétien de voir l'hostie. Hein. C'est à Paris que les chrétiens demandent à ce qu'on fasse l'élévation après la consécration. Donc on voit le corps du Christ. Hein. Et évidemment, ben, la procession du sacrement où la Sainte Hostie est mise dans un encensoir, eh ben, relève de cette même volonté de voir, même si c'est un paradoxe, parce qu'il n'y a rien à voir.
Pas grand-chose à voir.
C'est-à-dire que concrètement, nos sens nous trompent. Hein. Nos yeux ne voient que du pain, mais notre cœur nous dit, et la foi nous l'assure, que c'est véritablement Jésus présent avec son corps, son âme, son humanité, sa divinité, lui ça, tout entier.
C'est pas saint Thomas qui dit ça, par exemple.
Saint Thomas le dit, par exemple, absolument, dans ses magnifiques cantiques qu'il a composés pour la fête de Dieu.
Si on pense à cette procession, on peut aussi la rapprocher à la Vierge Marie, qui a été rendre visite à sa cousine Élisabeth. Est-ce que ce n'était pas une première forme de procession avec Jésus en son sein?
Si, enfin, ce
que dit Jean-Paul II.
C'est très beau. Pouvez-vous nous citer le passage, peut-être intégralement, si vous l'avez.
Je ne l'ai pas, non, malheureusement.
Mais, en tout cas, c'est très beau. Mais d'une certaine manière, c'est sûr que la procession, elle nous rappelle l'incarnation. C'est-à-dire que le Christ, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il a marché sur nos chemins. Et la procession l'illustre, le Christ, comme il est passé par les rues de nos villes, passe à nouveau par les rues de nos villes. L'Église, pour reprendre un mot du cardinal Journet, l'Église c'est l'Évangile continué, voyez. Et l'Église fait passer Jésus par les rues de nos villages pour apporter cette révélation de l'amour de Dieu, pour apporter le salut, pour apporter sa bénédiction.
Est-ce qu'il y a d'autres significations de cette fête? Indépendamment de cette incarnation, justement, cette présence du Christ dans nos vies.
Tout y est. Il y a bien sûr le fait que ce soit le corps livré, hein, le corps donné. Alors, c'est plus le jeudi saint qu'on fait davantage mémoire du... Et c'est deux fêtes toutes semblables, hein, en fait. Je veux dire, c'est toujours la fête de l'Eucharistie. Hein. Mais peut-être le jeudi saint, on insiste plus sur la vie donnée, le sacrifice.
Et avec le lavement des pieds aussi.
Exactement. Et sur le signe, le jour de la fête de Dieu. Mais il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de signe s'il n'y avait pas une vie livrée, etc. Enfin, les deux, évidemment, se complètent. Et de fait, c'est bon quand même de s'arrêter sur l'Eucharistie, sur cette matérialité de l'hostie, de se redire notre foi en la transsubstantiation. Il y a eu un changement de substance, hein, de
Est-ce
s'émerveiller.
Est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce
Mais
mot un
fait.
Petit peu savant?
Alors, la substance, c'est ce qu'est une chose. Hein. Et saint Thomas le dit bien, on distingue les apparences, ce qu'on voit, et ce que la chose est réellement. Hein. Il ne faut pas le prendre au sens chimique, parce qu'au sens chimique, si on passait nos yeux au microscope, on ne verrait pas de différence, voyez. Mais concrètement, eh bien, si les apparences ne changent pas, on voit toujours du pain, ça a toujours le goût du pain, ça a peut-être même les propriétés chimiques du pain, etc. Eh bien, la réalité, la substance, ce que c'est réellement, d'une manière miraculeuse, mais Dieu est le maître de l'être, hein, puisqu'il est le créateur, eh bien, ce n'est plus du pain, c'est le Christ véritablement présent. Et ça, c'est ce qui nous différencie avec nos frères protestants, mais qui en font un symbole. Mais il faut reconnaître que beaucoup de chrétiens, et c'est quand même grave, hein, beaucoup de chrétiens catholiques hein, considèrent que l'Eucharistie est un symbole. Ça ne l'est pas, c'est véritablement lui. Hein, et Jésus nous le dit. Il ne dit pas « ce pain est le symbole de mon corps ». Il ne dit pas « ce pain est mon corps », parce que dans ce cas-ci, ce sera la foi du pain et son corps, vous voyez, comme la théorie de l'impanation, de la façon Luther. Non, il dit « ceci », pourquoi ? Parce que c'est plus du pain, « est mon corps ». Voyez. Et rappelons-nous que notre foi repose sur les paroles du Christ qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et donc c'est là que, d'une certaine manière, dans l'Eucharistie, sacrement pas si facile, qui dépasse évidemment notre intelligence, mais c'est là que se vérifie aussi notre foi. Et c'est pour ça que nous le disons à la messe, après la consécration, et dans l'ancien rite, nous le disons même pendant la consécration, « Mysterium fidei », il est grand le mystère de la foi.
Oui. On va regarder précisément comment se déroule la procession de la fête de Dieu, et j'aimerais bien, Françoise-Marie, que vous nous la décriviez un petit peu, telle qu'elle passe dans les rues de Grenade.
Ben voilà, donc dans les rues de Grenade, donc c'est une procession qui sort de l'église, donc c'est une longue procession. En général, on met d'abord les enfants qui ont fait leur première communion dans l'année, qui ont des petits paniers avec des pétales de roses ou des pétales de fleurs ou des fleurs, qui vont en fait déposer ces fleurs sur le chemin. Pour préparer un petit peu le chemin. Donc, il y a aussi les servantes d'assemblée qui font ça. Viennent ensuite d'abord des enfants de chœur et puis le dais. Donc, le dais, c'est une espèce de toit, comme un grand parasol carré qui est porté par des fidèles. Donc là, on a besoin d'hommes costauds en général, parce que c'est un peu lourd. Puis comme c'est un petit peu fragile, il faut être bien coordonné. Et puis sous le dais, donc le prêtre est là portant l'ostensoir, qui est ce grand soleil doré qui va mettre en valeur l'hostie qui est posée au milieu. Il y a beaucoup d'encens. Voilà, on a un ou deux encensoirs en général. On a du coup les enfants de chœur autour, on peut avoir des clochettes, et puis viennent ensuite tous les fidèles. Donc on va faire le tour, donc à Grenade, en général, on fait soit le tour de la halle, soit le tour de l'église, etc. On peut également s'arrêter dans des reposoirs qui auraient été aménagés, avec beaucoup de fleurs, avec... voilà, alors c'est une fête qui est, comme on a dit, qui est très visuel, donc on a beaucoup de doré.
Qui réjouit les sens.
Tout à fait. Beaucoup de paillettes, voilà, ça c'est une fête qui plaît beaucoup aux enfants pour ça en général. Et puis du coup, les fidèles suivent le Saint-Sacrement et chantent des chants. Ça peut être l'hymne, enfin la séquence du jour, donc l'Audation qui a été composée du coup exprès pour cette fête-là, qui est un très très beau chant. Il y a plein de très très beaux chants qui permettent de vénérer le très saint sacrement. Donc voilà, on va les chanter, on va marcher. Donc en général, comme on est, enfin en tout cas à Grenade, les gens viennent aux fenêtres, regardent, s'interrogent, ou alors on croise des gens dans la rue qui nous regardent un petit peu, qui se posent des questions, parce que c'est pas courant de voir des chrétiens comme ça se montrer en fait au monde avec autant de faste. Et puis on va venir, du coup il y a un reposoir qui est installé, c'est dans le jardin juste à côté de l'église, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de branchages, voilà, c'est très beau. Les tapis sont sortis pour l'occasion, voilà, pour que ce soit tout à fait solennel. Et puis la procession se termine par un temps d'adoration en fait, où le Saint-Sacrement est... Donc on a un salut au Saint-Sacrement, voilà. Et on reçoit la bénédiction, tout à fait.
Et vous recevez la bénédiction. Sainte Thérèse de Lisieux, dans ses écrits, raconte comment, enfant, elle lançait ses fleurs le plus haut possible au passage du Saint-Sacrement et combien elle était heureuse en voyant, je la cite, ses roses effeuillées toucher l'ostensoir sacré. Donc c'est une tradition en tout cas qui perdure et qu'il est bon de renouveler. Père François de Larbos, vous voulez ajouter quelque chose sur cette procession, sur cette organisation, on va dire ?
Un mot peut-être sur... alors il y a deux choses à dire. Il y a tout le côté symbolique de la procession et puis il y a le côté festif. Or, sur le côté symbolique, il faut bien dire que la procession est toujours l'expression de notre pèlerinage sur la terre. Hein. nous venons de Dieu et nous revenons à lui. L'exitus et le reditus, hein, la sortie et le retour des créatures vers Dieu, et particulièrement de nous qui sommes spécialement aimés de Dieu. Et le Christ marche avec nous. Hein. Et la procession, elle exprime ça. Elle exprime le but de notre vie, aller vers Dieu, venant de Dieu et marchant avec Dieu. Hein. Et elle exprime ça, notre vocation. Et c'est bon de se le rappeler. Voyez, voilà, nous sommes des viators, des voyageurs, comme dit saint Thomas, des pèlerins. Hein. La procession veut exprimer ça. Elle exprime évidemment aussi l'idée de peuple uni. Hein. Dans la procession du sacrement, on se déplace en peuple ou on se déplace en corps. Hein. Et ça nous rappelle aussi que la fin ultime de l'Eucharistie, eh bien, c'est de faire de nous un seul corps, le corps du Christ. C'est donc de nous unifier hein, dans la même foi, la même espérance et le même amour. Hein. Et de telle sorte que la procession, elle manifeste ça. Nous formons le corps du Christ et le Christ marche en avant. Eh bien, le chemin que Jésus a pris, lui qui est la tête du corps, nous le prendrons nous aussi. Vous savez, comme un bébé naît par la tête hein, et tout le corps suit, ben, le Christ il est monté aux cieux et nous aussi nous marchons vers la Jérusalem nouvelle. Et un jour, avec lui, comme lui, après lui, nous rentrerons dans la vie éternelle. Ça, c'est l'exprime.
Puisque vous avez parlé de chant, nous allons marquer une pause musicale et écouter le Tantum Ergo interprété par la province dominicaine de Toulouse. Les paroles ont été composées par saint Thomas d'Aquin et la musique par Maurice Duruflet.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
des processions de la fête Dieu vont se dérouler dimanche dans notre région. Nous avons vu avant cette pause musicale d'où provenait cette tradition et quel était son cérémonial. Autour de ce plateau, l'abbé François de Larbousse, curé de l'ensemble paroissial du Grand Selve, et Anne-Françoise Marie, mère de famille et paroissienne de ce même ensemble. Parlons de ce faste. Pourquoi tant de faste est-il déployé lors de la procession de la fête Dieu, monsieur l'abbé ?
Alors, tant de fastes est déployé lors de, d'abord la messe, hein, parce que c'est avant tout une messe, hein, le jour de la fête de Dieu, évidemment.
Oui. Et nous parlons de la procession, voilà. C'est
et, vrai. Et la procession vient ensuite, avec effectivement un faste un peu inhabituel, mais parce que d'une certaine manière, c'est le trésor de l'Église et que l'Eucharistie nous réjouit et que... Quand on bien se réjouit, on fait la fête, si on peut dire. Et donc, voilà, un peu comme tout le monde, hein, que quand vous voulez célébrer un événement qui vous tient à cœur, un anniversaire, Noël, que sais-je, vous mettez les petits plats dans les grands. Hein. C'est très humain, c'est anthropologiquement très naturel. Et de fait, je pense qu'il ne faut pas négliger l'anthropologie. La liturgie... a une dimension anthropologique, c'est l'homme qui rend un culte à Dieu, et qui rend un culte à Dieu avec ce qu'il est. Et l'homme, il est aussi fait pour les fêtes, il a aussi besoin d'exceptionnel, d'une certaine manière, l'exceptionnel l'aide à réaliser le mystère. Et du coup, eh ben, il faut un peu de
un peu d'incarnation,
un peu de décorum, un peu d'incarnation. Et de fait, c'est certain que cette procession, elle avait largement disparu. Comme globalement, on a malheureusement un peu délaissé toute la dévotion populaire, un certain décorum, un certain faste, etc., au nom d'une purification de la foi, purification qui en soi se comprend, mais qui laisse parfois de côté les petits, les pauvres qui ont besoin de signes et ont besoin de gestes. Hein. Et Jésus lui-même n'a pas dédaigné les fêtes des hommes, et il y a participé. Mmh. Hein. Et de fait, on gagnerait à retrouver un christianisme, un peu un catholicisme, un peu festif, hein, et qui sait finalement se réjouir de ce que Dieu lui donne, quitte à mettre de temps en temps les petits plats dans les grands, parce que c'est tout à fait humain. Là-dessus, j'ai beaucoup reçu d'un dominicain, enfin d'un livre d'un dominicain, le père Serge Bonnet, qui a écrit il y a un livre qui s'appelle « Défense du catholicisme populaire », hein, et qui montre bien que peut-être après le concile, il y a eu un cléricalisme effréné de la part des prêtres qui supprime tout ce qui était un peu cher au peuple chrétien, avec, il faut le dire, une très grande violence. Hein. Finalement, on veut épurer la foi, mais...
Et trop l'intellectualiser, alors.
On l'a intellectualisé. Et de fait, pourquoi ne pas voir de signes ? Voilà. Que je sache quand même, quand Dieu veut donner sa grâce, il le fait par des signes, des sacrements. Hein. Alors, le dé, les bannières, tout ça, c'est pas sacramentel, c'est évident, on peut en soi s'en passer. Mais malgré tout, l'humanité, elle se trouve bien dans des signes, dans des symboles, et dans une fête qui nous réjouit. Après tout, c'est bien de faire une fête et c'est bien de se réjouir. Voilà.
Anne-Françoise Marie.
Ben oui, je trouve que c'est un peu la prolongation en fait de toute la joie qu'on peut avoir pendant les fêtes pascales, par exemple. À Grenade, on célèbre le Triduum avec beaucoup de soins, beaucoup de fastes pour le Jeudi Saint, beaucoup de solennité pour le Vendredi Saint. La veillée pascale le samedi, alors c'est pareil, on a l'impression de rentrer dans une forêt de branchages, de feuilles, de fleurs, etc. Et en fait, je trouve que la fête Dieu, c'est un peu la prolongation en fait de ces très belles fêtes qui, par nos sens, vont nous faire progresser aussi dans notre foi. Et moi, je le vois très bien avec mes enfants, qui sont très touchés, en fait, par que ce soit l'aspect visuel, donc toutes les décorations, les bannières. Ils aiment beaucoup regarder en détail les bannières, etc. Les chants aussi. On est aussi très sensible à la belle musique. Enfin, tous les, enfin, voilà, on écoutait, je disais pendant la pause musicale que c'était quand même très très beau, du reflet du coup. On est sensible à ça et en fait, ça, je trouve que par nos sens, on est éveillé vraiment au mystère de la foi et on grandit dans notre foi aussi par l'intermédiaire de nos sens. Alors, on peut être plus ou moins porté en fonction des moments de notre vie ou voilà, mais ces fêtes-là, elles vont aider bah, les grands, les petits, ceux qui sont plus loin de la foi. Voilà, ça va être une façon de toucher les cœurs. Et je pense que c'est important et de soigner ces moments-là et de faire que ce mystère de la foi et de montrer en fait la foi du peuple chrétien, bah, déjà au peuple chrétien, parce que c'est toujours... une grande joie de voir bah, qu'on n'est pas seul à croire et qu'on fait vraiment partie d'une communauté. Et aussi de montrer, à donner cette foi aussi vers l'extérieur, vers le monde.
Et ce faste, en tout cas ce déploiement de solennité et de beauté, nous fait penser au curé d'Ars qui, pour lui, disait qu'il n'y avait rien de trop beau pour le Seigneur.
Exactement, tout à fait. Mmh.
Et il y a eu, le catholicisme a quand même engendré des arts dans la musique, dans l'architecture, dans mille domaines. Et je pense qu'il faut que nous retrouvions un peu cet enchantement du christianisme. Mm-hmm. Hein, et voilà, que dans le fond, toute cette poésie chrétienne, toute cette, voilà, cette magnificence de l'art chrétien, il faut aussi la retrouver, je crois. Mm-hmm. Hein.
Oui, puis en être fier aussi, être fier aussi de l'histoire, bah, par exemple sur la fête Dieu, se rappeler que bah, les villages remplissaient leurs rues de fleurs. Là, pour préparer l'émission, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'une préparation de la fête Dieu en 1960 dans un village de Vendée. Je ne sais pas le nombre de pétales de roses qu'ils ont mis organisés. Ils les mettaient de façon géométrique. C'était très, très, très beau, vraiment. Rien n'était trop beau.
Oui, et puis ouais. Les habitants pouvaient déployer des ouais, bannières fait, ou des, ouais. des jolis tissus.
Ouais, ou des guirlandes.
Ouais. À leurs fenêtres.
Ouais. Exactement.
Ouais, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société déchristianisée. Il y a des choses qui ne reviendront pas, ou pas tout de suite, c'est certain. Mais malgré tout, on aurait tort de congédier trop vite les formes du passé quand elles sont utiles. Il ne faut pas les garder a priori, hein, pas simplement parce que c'était mieux avant, ça n'a aucun sens. Mais quand elles sont utiles, après tout, il faut les garder. Et je pense tout à fait nécessaire dans un monde qui bouge beaucoup, tout le temps, de telle sorte que c'en est presque angoissant et que les gens ont le sentiment d'être dépassés et perdus, et bien que la foi catholique, elle soit... Nova et vetera, du neuf et de l'ancien, voyez, et que, d'une certaine manière, elle propose l'évangile toujours nouveau hein, aux générations actuelles, et en étant tout à fait à l'aise avec aussi les formes anciennes, n'ayant pas peur de la nouveauté non plus, mais que, d'une certaine manière, elle incarne une sorte de permanence. Hein. Sainte Thérèse d'Avila, hein, tout passe, mais Dieu demeure. Et ça, ça fait du bien à l'âme. Mmh. Et une religion toujours changeante, toujours nouvelle, serait fatigante et
déstabilisante.
Déstabilisante, exactement.
Et reprendre cette tradition, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rester dans le passé? Est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher aux catholiques de vouloir ressusciter des traditions ancestrales et qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, finalement?
Je crois qu'en réalité, on veut... Si c'est pour être passéiste, évidemment, ça n'a pas de sens. Voilà. Maintenant, si une tradition est bonne, pourquoi véritablement s'en séparer, voyez ? Je veux dire, si vous aimez la bonne tire de votre grand-mère, pourquoi la changer ? Vous voyez ? Après tout, si elle vous plaît toujours, ouais. Vous voyez ? Ça n'a pas de... voilà. Pourquoi ne pas le garder ? C'est notre fierté aussi, hein ? Être catholique, c'est aussi assumer avec fierté son histoire.
Mmh. Et puis en l'occurrence, pour la fête de Dieu, le Christ est toujours présent jusqu'à la fin du monde. C'est le même maintenant que dans les années, dans les siècles passés. Et la vénération qu'on lui doit, elle est toujours la même. Mmh. Donc moi, je trouve ça, au contraire, je trouve ça très chouette de pouvoir ressortir les bannières qui avaient été faites avec beaucoup de soin par les paroissiens précédents.
Qu'est-ce qu'il y a sur ces bannières ?
Alors, bah, ça va dépendre des bannières. Nous, dans la paroisse, on a plusieurs bannières, une bannière par clocher, hein, à l'époque où il y avait une paroisse quasiment par église. Il y en a certaines où il y a la Vierge Marie. Il y en a d'autres où il y a d'autres symboles christiques. Voilà. En fait, c'est des bannières qui ont été... Alors, il y en a certaines qui ont été probablement refaites, mais certaines ont été retrouvées dans des sacristies. Elles avaient été très, très bien rangées avec beaucoup de soin. Je pense qu'avant qu'on remette au goût du jour la procession de la fête de Dieu, certaines n'avaient pas dû voir le jour pendant quelques années quand même. Mais du coup, c'est une grande fierté aussi pour chaque village de montrer qu'on fait partie du même ensemble paroissial, qu'on est tous là, ensemble.
C'est ce signe d'unité dont parlait l'abbé de Larbouste.
Exactement.
Oui, tout à l'heure. Là, j'avais une petite question sur le dais, parce qu'évidemment, on ne le voit pas souvent, ce dais. Vous parliez de cette espèce de toit. D'où ça vient, cette tradition ?
On le voit à Lourdes, quand même, à la procession de la...
C'est
Lourdes,
vrai.
Lourdes est quand même ce lieu où, depuis le début, il y a toujours eu une procession du Saint-Sacrement, et tous les jours. Et ça, c'est quand même... finalement, Lourdes est un très haut lieu pour un lieu marial, hein, mais de l'amour de l'Eucharistie. Hein. C'est que la Sainte Vierge nous renvoie toujours à Jésus, hein, voilà, et réciproquement. Et ce dé, il est le signe, vous savez, de l'Arche d'Alliance qui accompagnait le temple, était sous une tente.
Oui, c'est vrai. Hein.
Et d'une certaine manière, le dé, il indique la présence de Dieu. Dieu est là. Il indique la gloire de Dieu. Dans l'Arche d'Alliance, c'était la Shekinah, la gloire de Dieu, vous voyez. Eh bien, ça indique ça. C'est que la gloire de Dieu est là, d'une part, et que Dieu marche avec nous. Voilà. Toutes les choses importantes sont souvent mises sous des dés, des royales, ou songeons aussi dans la liturgie juive, hein, du mariage.
Oui, le dé nuptial.
Hein, le dé nuptial, c'est très beau. Hein. Eh bien, on pourrait dire aussi que c'est le dé nuptial. Hein, le Christ s'est livré à l'humanité. Il a aimé l'Église. Homme, aimez vos femmes comme le Christ. Il a épousé l'Église. Donc, il y a 1000 significations. Chacun y trouve la sienne. On peut se passer de dés. Hein, c'est tout à fait... c'est secondaire en soi. Ce qui est important, c'est le Christ qui est dessous. Mais bon, si on a un dé, autant le...
Ça vient signifier, en tout cas.
Ouais. Surtout, ça vient aussi dire où est le prêtre, parce que quand la procession est longue, tout le monde ne voit pas dans ce temps soir. Hein,
c'est
moi,
ça.
Prêtre,
Est-ce que vous avez des retours ou des témoignages des personnes qui voient la procession passer et qui peuvent être touchées ou vous témoigner d'un réveil de foi ou je ne sais quoi?
Je n'ai pas de témoignage direct en lien en tout cas avec la fête de Dieu, mais ce qui est sûr, c'est que les gens s'arrêtent, nous regardent, nous écoutent. Et probablement, peut-être pour les plus anciens d'entre eux, ça leur rappelle quand même ce qu'ils ont pu vivre dans leur jeunesse, avec leurs parents. Et il y a toujours cette petite curiosité très, très bienveillante autour des processions qu'on peut faire, que ce soit celle de la fête de Dieu, mais aussi lors du 15 août, pour la fête de l'Assomption. Il y a toujours une espèce de... je pense que c'est d'abord de la curiosité. Et puis, éventuellement, si le Seigneur les y pousse, ils identifient des gens qu'ils connaissent. Et puis, ça peut être une porte d'entrée vers un retour à l'Église, un retour à la foi. Parce qu'en fait, je trouve que c'est aussi important d'avoir... d'être identifié en tant que chrétien auprès...
dans la société.
Dans notre cercle amical, familial, à l'école, au travail, etc. Parce que du coup, on est une porte d'entrée pour qu'il puisse y avoir un premier contact, des questions qui se posent. Et le fait d'être présent dans cette procession et d'être éventuellement identifié par des gens qui ne sont pas du tout dans l'Église, on devient ce chrétien un peu identifié. Mmh. Et donc, on peut devenir une porte d'entrée.
Oui, monsieur l'abbé.
Les gens sont parfois surpris, je ne peux pas dire qu'ils comprennent tous, hein, ils ont pas quelquefois leur catéchisme est très loin ou absent, et donc ils n'ont pas toujours connaissance de la présence réelle. Ils sentent toujours qu'il y a quelque chose de sacré, ils voient une ferveur, ils voient un peuple en marche, ils voient que la foi chrétienne n'a pas disparu, ce n'est pas inutile quand même. Nous vivons dans une société à religieuse, et ça c'est très nouveau dans l'histoire, hein, et de se dire qu'il y a encore des gens qui croient et qui ne sont pas simplement d'une autre religion, vous voyez, mais qui sont des chrétiens, eh bien malgré tout, les gens en fait sont plutôt contents. Mmh. Voilà.
Et
ça rappelle leurs racines.
Et ça rappelle leurs racines, c'est exactement la question que je voulais vous poser. En quoi ces processions peuvent participer à l'enracinement?
Parce que dans le fond, les gens qui parfois ne font plus baptiser leurs enfants, qui n'ont plus de conception de Dieu. Je veux dire, l'irreligion est très importante. Hein, le fait que la religion soit absente de la vie des gens, et en même temps, si saisissant que ce soit est vraiment unique dans l'histoire, eh bien, leur fond reste chrétien. La morale, en Europe, en France, c'est une morale chrétienne. On vénère quand même le respect de la personne, sa dignité, le pardon plutôt que la violence. Vous voyez, je veux dire, il y a un fond où on aspire à l'amour, vous voyez. Et de fait, les gens sont quand même le christianisme un peu chevillé au corps, malgré tout, voilà, on respire un air encore un peu chrétien. Mmh. Et de certaine manière, ils retrouvent un peu leurs racines et ils se disent, mais après tout, mais pourquoi pas? Hein. La grande question aujourd'hui, les gens ne sont pas hostiles en soi à la religion, mais ils ne la connaissent plus, ils ne savent plus qui les fera passer, qui les voilà, ils n'en ont peut-être pas spontanément le désir. Et d'une certaine manière, la fête de Dieu, c'est l'occasion de leur dire, mais après tout, pourquoi pas? Ça existe encore, et pourquoi pas? Et pourquoi ne pas croire?
Et est-ce qu'une telle procession de la fête de Dieu au travers des villages ne viendrait pas à l'encontre du sacro-saint principe de laïcité?
Eh bien, en tout cas, nous faisons ça dans le respect absolu de la loi de 1905 qui permet les processions. Et j'ai demandé la permission à monsieur le maire de Grenade et je le remercie d'avoir accepté. Voilà. Donc non, ce n'est pas contraire à la laïcité qui permet une manifestation publique de la foi. La nôtre reste modeste, hein, soyons honnêtes. Voilà. Nous n'envahissons pas les rues de Grenade tous les dimanches. Hein. Voilà.
Mais c'est deux fois par an, si j'ai bien compris. La fête Dieu est le 15 août.
Voilà. C'est deux fois par an. Et après tout, vous savez, la vraie laïcité, ce n'est pas une épuration de ce qui fait la richesse de la société. Vous voyez, la foi, les religions en font aussi partie. Hein. Dans la mesure où nous n'imposons rien, où nous ne sommes pas dans une violence, ou dans une... après tout, pourquoi pas? C'est bien. Mm-hmm.
Oui. Est-ce que nous ferons encore des processions au ciel?
C'est une question.
Alors, c'est une question peut-être théologique.
Je crois que d'une certaine manière, la procession, elle indique que nous sommes en chemin. Au ciel, nous ne serons plus des voyageurs, nous serons arrivés.
Arrivés à destination.
Voilà. Ouais. Et en même temps, Fra Angelico représente la ronde des élus. Il danse autour du trône de l'agneau. Peut-être qu'on dansera, voyez, à défaut de marcher. Je ne sais pas. Je n'y ai pas été, mais en même temps, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos fêtes liturgiques terrestres doivent être un avant-goût, et c'est un tout timide avant-goût de cette joie céleste. Hein. La liturgie, c'est aussi un petit peu la liturgie du ciel. Pas tout à fait. Enfin, c'est le même que nous vénérons à la messe que nous verrons dans la vie éternelle, vous voyez. Alors, elles prennent des formes humaines, mais ces formes, elles doivent être aussi joyeuses parce que le ciel, ce sera un débordement de joie.
Mmh. Sur cette joie, Anne-Françoise Marie, et la joie que vous voyez aussi avec vos enfants qui participent à ces processions?
Eh bien oui, pour eux, c'est des moments un peu exceptionnels. Déjà, on les prépare. On va aller cueillir les premières roses des rosiers pour les offrir à Jésus, en fait, pour la fête de Dieu. Donc voilà, j'essaye de les inclure un petit peu dans cette préparation. Évidemment, ils savent qu'il y aura des beaux chants. Voilà, ils savent que pour mon fils qui sert la messe, qu'il y aura une procession un peu particulière ce jour-là. Et tout ça, ça participe, je pense, vraiment à leur faire ressentir la grande joie, la solennité aussi. Parce qu'en fait, quand ils voient leurs parents se mettre à genoux devant l'ostensoir, et ben pour eux, c'est très marquant. Un peu comme Jean-Paul II avait été très marqué par les prières de son père. Et je pense que pour les enfants, c'est vraiment... c'est difficile pour eux de leur faire comprendre la présence réelle quand ils sont tout petits. Moi, je me souviens très bien, enfin, j'ai les enfants, même petits, j'essaie de leur dire « Regarde, c'est Jésus ». Alors, au début, quand ils sont tout petits, je pense qu'ils confondent un petit peu Jésus et le prêtre. Mais très vite, on leur dit « Non, non, regarde l'hostie ». Voilà. Et en fait, la fête de Dieu les aide aussi à ça, à vraiment regarder l'hostie dans l'ostensoir, à voir qu'il y a des chants, il y a de l'encens, il y a des très belles décorations. Alors... évidemment, toutes les bannières sont dorées, très très belles, avec plein de brillants, etc. Et ben tout ça, ça participe, je pense vraiment aussi à leur faire toucher du doigt l'importance que le Très Saint-Sacrement a pour nous, mm-hmm. et donc de leur transmettre aussi cet amour en fait. En tout cas, moi, ils n'ont jamais rechigné à venir, ils sont toujours très contents. Même les ados, ils sont j'ai pas vu, ils m'ont pas dit « Oh ben non, j'ai pas envie d'aller dans les rues, ok, où je croise un copain, tout ça ». Ils m'ont jamais dit ça. Bon, il se trouve que c'est pas leur village directement, mais non, ils ont toujours trouvé ça super chouette, ouais.
Un mot pour conclure, monsieur l'abbé ?
Peut-être justement pour rebondir ce que vous venez de dire, parce que dans le fond, sortir dans la rue, ça nous rappelle aussi que nous avons à être missionnaires. Hein, et que... alors, évidemment, on ne va pas le faire en passant notre vie en procession, mais la procession, le fait de donner un témoignage public de notre foi, et il y a vraiment ça dans l'idée de la fête de Dieu, nous montre aussi que notre foi, nous n'avons pas à la mettre sous le boisseau, mais nous avons à la faire rayonner, parce que le Christ nous a aimés jusqu'au bout, et que cet amour jusqu'à la fin, nous le gardons dans la Sainte Eucharistie, qui justement est bien le signe de son sacrifice, le signe de son amour jusqu'au bout. Et donc, nous devons être témoins de l'Eucharistie, parce qu'être témoin de l'Eucharistie, c'est être témoin de l'amour de Jésus pour le monde.
Merci beaucoup, Père François de Larbousse. Merci Anne-Françoise Marie. Bonne fête Dieu et belle procession dans les rues de Grenade.
Merci beaucoup.